Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager quelques pas à faire pour recevoir notre délivrance ou la délivrance. Et pour cela, j'ai pris le texte bien connu de Marc 5, versets 25 à 34. Moi, je lis toujours la parole vivante. Au milieu d'elle, c'est-à-dire de la foule, se trouve une femme atteinte depuis 12 ans d'hémorragie. Elle a passé entre les mains de nombreux médecins et en a beaucoup souffert. Elle a dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état n'a fait qu'empirer. Elle a entendu parler de Jésus. Et sous le couvert de la foule, elle s'approche de lui, se glisse derrière lui et touche son manteau. Elle se dit en effet, si du moins j'arrive à toucher un bout de ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrête, elle ressent dans son corps qu'elle est délivrée de son mal. Jésus aussi s'est aperçu immédiatement que quelqu'un a fait appel à sa puissance de guérison. Il se retourne et dit aux gens qui l'entourent, « Qui vient de toucher mes vêtements ?» Ses disciples disent, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés, comment peux-tu demander qui m'a touché ?» Mais lui continue à promener son regard autour de lui pour découvrir qui a fait cela. Alors la femme, sachant ce qui s'est passé en elle, se met à trembler de peur. Elle vient se jeter à ses pieds et lui avoue toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars tranquille et sois guérie de ton mal. » On va développer quatre pas à faire, quatre pas que cette femme a faites pour être délivrée. C'est la même chose pour chacun de nous. Si on veut être délivré de nos péchés, de nos soucis, de la maladie, des oppressions, que sais-je, on peut faire les quatre pas que cette femme a fait. Certains, ils veulent une tonne de bénédictions pour seulement un seul gramme d'obéissance. Après, cet homme, pourquoi on n'est pas exaucé, hein? Il nous faut obéir, c'est croire et obéir. C'est ça le leitmotiv de la foi. Croire. Et les démons croient, beaucoup de gens disent « je croyais en Dieu », mais ce qui compte, c'est pas seulement de croire, mais c'est d'obéir, de croire ce que Dieu nous dit dans sa parole. C'est ça le principal. Et si on obéit, un petit gramme, comme je vous ai dit, les bénédictions iront au-delà de nos désirs. Ne soyons pas impressionnés, ne soyez pas impressionnés par la grandeur de vos problèmes, mais par la grandeur de celui qui nous libère. Souvent, on s'arrête sur notre bourrillon, sur ce qui nous cause du souci, des difficultés, des tracas, et on n'accède que sur nous-mêmes, on ne pense plus au grand libérateur. Il y avait des milliers de personnes autour de lui qui touchaient Jésus, qui bousculaient, mais seule une seule a été guérie. Bien plus, elle était sauvée, on verra après. Cela nous montre qu'il y a plusieurs façons de toucher ou de s'approcher de Jésus. Premier point, certains le touchaient par admiration. Beaucoup sont comme cela aujourd'hui. On l'admire, c'est un grand prophète, on a appris certaines choses. Il est bien, c'est un révolutionnaire, etc. Mais rien ne change dans leur vie, absolument rien. Deuxième point, d'autres, par superstition, ils s'approchent de lui. Peut-être qu'en le touchant, je serai guéri. C'est presque de la magie. Certains comptent sur leur pasteur, sur les autres. Mais la foi, c'est pas une loterie, ou bien une magie, non? La foi, elle obéit à la parole de Dieu. Croire et obéir. D'autres s'approchent de lui superficiellement. On vient à lui parce qu'on a des problèmes, des difficultés, mais il n'y a pas de grand besoin dans le cœur. Ou alors ils ne sont pas assez profonds, leurs besoins. Si cela marche, tant mieux, ça va bien. Mais si ça ne marche pas, on reviendra une autre fois, on verra plus tard. On ne peut pas sauter à pieds joints. Il faut faire les pas qu'elle a fait. Le premier pas qu'elle a fait, elle a franchi au moins 7 obstacles. Il y en avait 7. 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Premier obstacle qu'elle a franchi, c'est intérieurement, physiquement, fatigue, lassitude, etc. Rendez-vous compte, ça faisait 12 ans qu'elle avait ses pertes de sang. 12 ans qu'elle était malade. Qu'est-ce qu'elle a dû lutter? Deuxième point extérieur, il nous a dit qu'elle a dépensé toute sa fortune. Elle devait sûrement être en ayant de vieux habits, puisqu'elle n'avait plus de fortune pour rien. Puis à cette époque-là, on sait que les gens n'étaient pas, hein, à part certains riches, au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hein. Troisième pas qu'elle a fait, elle a été rejetée par les autres. Les autres croyants ont peut-être prié pour elle. Pendant 12 ans, absolument rien ne s'est passé. Quatrième pas qu'elle a dû faire, c'est se frayer un chemin dans la foule. Et on sait quand il y a de la foule que c'est dur à avancer. Si vous allez dans une foule, vous devez des fois taper des coudes, puis encore, vous massez les pieds, vous risquez de tomber. Et pensez, pour une personne en bonne santé, comme c'est difficile, et pour elle, que ça faisait 12 ans qu'elle avait des pertes de sang. Elle devait être épuisée, elle était anémie, elle était même recourbée. Rendez compte, elle a persévéré. Cinquième point, le sexisme. Oh, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, hein, vous direz. Mais à l'époque, les femmes étaient rejetées par les hommes. Les femmes étaient à part. Aujourd'hui encore, dans certains pays, c'est la même chose. Les femmes, c'est des numéros, c'est des moins que rien. Mais elle a quand même persévéré. Sixième point, sixième obstacle qu'elle a dû surmonter, c'est sa religion. Le judaïsme disait que quand une femme était impure, elle avait ses règles, parlons en bon français, elle devait être mise à part, personne n'osait la toucher. Et elle, ça faisait 12 ans que ça durait. Donc, rendez compte, elle était à part de la société. Septième point, septième obstacle qu'elle a contourné, la culpabilité. Si Dieu ne guérit pas, tu n'as pas la foi. Quand on entend ça souvent, oh, t'es pas guéri, c'est parce que t'as pas la foi, c'est parce que t'as pas obéi, c'est parce que si, c'est parce que ça, c'est que des condamnations. Elle était vraiment à bout de ressources. Premier obstacle, c'était pas facile pour elle, mais elle a persévéré. Deuxième pas qu'elle a fait, elle a entendu parler de Jésus. Luc 4, 14 nous dit, 14 et 15, Jésus rempli de la puissance de l'Esprit, retourne en Galilée où sa réputation commença à se répandre. Dans tout le pays, on se mit à parler de lui. Il enseignait dans les synagogues de la région et jouissait de la considération générale. Tout le monde faisait son éloge. Elle avait entendu parler de lui, elle savait qu'il guérissait, qu'il ressuscitait même des morts. Elle a voulu aller. Il est important d'entendre parler de Jésus de la bonne manière. Certains enseignent aujourd'hui que les miracles étaient seulement pour le temps des apôtres. Ce n'est pas le bon message, ça. Car la parole nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas lui qui doit changer. Il ne change pas. Mais c'est notre théologie qui doit changer. Notre façon de croire, notre façon de penser. Dieu est toujours le Dieu des miracles. Est-ce qu'on le croit toujours? Et que c'était que pour cette époque? Il y a certaines choses qui étaient pour cette époque, oui. Mais c'est toujours valable maintenant. La guérison, le pardon des péchés, la libération, la délivrance, que sais-je? Certains disent même, c'est la volonté de Dieu qu'on soit malade. Oh, c'est un glorieux ministère que de souffrir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est une tragédie, plutôt. Voilà pourquoi la foi est tuée dans le peuple de Dieu. Parce qu'on dit des âneries. Avez-vous déjà lu dans la parole que Jésus disait à un malade, « Tais-toi, c'est Dieu qui te donne cette maladie, souffre, puis tais-toi. » Mais c'est une hérésie, une hérésie. Acte 10, 38 nous dit, je vous le dis en plusieurs versions différentes, « Vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit Saint sur Jésus de Nazareth est passé surtout en faisant le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal parce que Dieu était avec lui. » N'oublions pas. Vous savez que Dieu a conféré l'onction messianique à Jésus de Nazareth en le revêtant de son Esprit Saint, en lui donnant sa puissance. Vous avez entendu comment il a parcouru le pays, allant de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient tombés sous la domination du diable. Manifestement, Dieu était avec lui et agissait par son intermédiaire. Troisième version, ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction de l'Esprit Saint et de sa puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. C'est pas Dieu qui donne la maladie, c'est pas Dieu, c'est Satan. Dieu permet, mais c'est pas la même chose. Il ne vient aucun mal de Dieu. On se dit, ouais, Dieu me punit. Non, 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 absolument pas. La parole nous dit le contraire. D'autres disent, c'est pas certain qu'il veut le guérir. Il a des chouchous, Dieu. Ah bon? Ben c'est bien d'être son chouchou, hein. Comment avons-nous entendu parler de Jésus? Comment parlons-nous de Jésus? Comment est-ce qu'on témoigne de Jésus? Elle a entendu parler de la bonne façon de Jésus. Elle s'est dit, s'il en est ainsi, je serai guérie. Sa foi est entrée en action. Romains 10, 17 nous le rappelle. Donc la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Donc la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile, et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre de Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Vous direz, l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend, hein, ça c'est vrai. Mais ce qu'on entend là, c'est la tradition des hommes. Alors écoutons la parole, ce qu'elle nous dit. Troisième pas qu'elle a fait, vous pensez bien qu'elle est passée à l'action. Sa foi, elle l'a concrétisée par un geste. Hein. Elle ne s'est pas contentée de savoir que Jésus pouvait guérir. Elle a agi, elle y est allée, comme on se rappelle, dans sa maladie, dans sa difficulté, dans ses problèmes, dans sa souffrance. Elle a été dans la foule parce qu'elle voulait, elle savait qu'il la guérirait. Jacques 2, 18 nous rappelle, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. On pourrait traduire ce verset, tu as la prétention d'avoir la foi, montre-moi ta prétendue foi sans les œuvres. Si tu es embarrassé pour répondre à cette demande, moi je te montrerai au contraire la vraie foi, et non ma foi, ma propre foi, ma propre compréhension, mais la vraie foi par les fruits qu'elle produit. Parce que la vraie foi produit toujours des fruits, mais ma foi à moi n'en produit aucun, parce qu'elle est axée sur mon bourrillon, sur mon moi. Et cette foi-là produit des fruits nécessairement. Obligatoirement. Et ceux qui en sont les signes, certains, c'est-à-dire les œuvres ou la pratique. La foi est toujours démontrée par la pratique. Et les œuvres préparées à l'avance par notre Dieu pour chacun de nous. Quatrième pas qu'elle a fait, la guérison et la confession. Elle avait beaucoup souffert, il nous a rappelé plusieurs médecins. L'art de la médecine en Judée, à cette époque, était très rudimentaire. Vous pensez, il y a 2000 ans. Hein? Il est écrit dans les livres rabbiniques, et ça j'ai cherché, le remède pour une hémorragie féminine, dites-vous bien. Il faut creuser 7 petites fosses dans lesquelles on fait brûler quelques sarments d'une vigne de moins de 4 ans. La femme doit prendre dans sa main une coupe de vin, elle est ensuite amenée vers une des fosses, et doit s'accroupir au-dessus de la première. Puis elle se lève et s'accroupit sur une autre. Lors de chaque changement, il faut lui dire « Lève-toi pour ce flux ». On voit bien là ce qu'elle a pu souffrir. Hein. Elle l'a peut-être fait, comme c'était à l'époque, c'était proposé. Il est à noter que cette maladie, là j'ai cherché sur Internet, c'était l'hémorroïs, que ça s'appelle, particulièrement redouté des Juifs, très difficile à guérir, et faisait l'objet de prescriptions de remèdes étranges, énumérées dans le Talmud, là. On prescrivait, par exemple, des cendres d'un œuf d'autruche porté dans une étoffe de lin. Si c'était l'hiver, de coton, si c'était l'été. Ou encore d'un grain d'orge ramassé dans le crottin d'une mule blanche. Attention, hein, pas n'importe quel crottin. Je sais que le crottin, c'est fertilisant, hein, ça pousse, ça aide à pousser. Si la femme la tenait dans sa main pendant un jour, le flux s'arrêtait 2 jours. Si elle le tenait 2 jours, le flux de sang s'arrêtait durant 3 jours. Si elle le tenait 3 jours, le flux de sang était censé s'arrêter pour toujours. Vous voyez, c'est croyance, hein. On est heureux aujourd'hui hein, d'avoir une médecine, que Dieu donne des dons aux médecins. C'est fait pour s'en servir aussi. Hein. De nos jours, la médecine attribue 2 causes aux pertes de sang importantes et au long cours chez les femmes en dehors des cancers. Ça, je l'ai vu sur les livres de médecine. Certains déficits dans la coagulation du sang. Déficit chronique en plaquettes sanguines et l'endométriose sévère. Ça, c'est spécialement les dames qui y sont. Dans le récit des 3 synoptiques, nous avons affaire à une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 ans. 12 ans. D'après la Bible, Jérusalem. Mais l'expression peut aussi bien signifier depuis l'âge de 12 ans. Donc, depuis l'âge de 12 ans, elle aurait 24 ans. C'est possible, on ne sait pas. Mais en tous les cas, ça fait 12 ans. Dans ce cas, sa maladie l'empêchait même d'être mère. La fille de Jaïrus, qu'on voit tout après, avait cet âge de 12 ans, elle est décédée à 12 ans. Voyez ? Notez que ce n'est pas le vêtement qui l'a guérie, mais elle l'a été, pourquoi ? Parce qu'elle avait foi en la puissance de Jésus. Et que même si elle pouvait seulement toucher son vêtement, c'est ce qu'elle pensait, je serai guérie, simplement ça. Voyez cette foi qu'elle avait ? En celui qui seul pouvait la guérir. Ses disciples lui disent, mais tu es un petit peu zinzin, quoi. Hein? Comment peux-tu dire quelqu'un m'a touché le bord de mon vêtement? Cette observation des disciples, juste en elle-même, vient de ce qu'ils ignorent la vraie cause de la question. Et Jésus, quelle importance il donnait avoir cette force qui est sortie de lui. Jésus ne demandait qui m'a touché parce qu'à ce moment précis, il ne savait pas. Mais cette question avait plus d'importance pour la femme que pour lui-même. Pour lui-même, peu importe que quelqu'un ait touché son vêtement. Mais parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle se cachait et qu'elle l'a fait en étant cachée. Il voulait la tirer de l'obscurité où elle était. Il voulait l'amener à la lumière. Et il lui adressait la parole. En l'encourageant avec bonté, il voulait l'amener à entrer en contact avec lui. C'est ce qu'il fait. On doit entrer en contact avec lui. Il voulait rendre sa foi beaucoup plus claire en se révélant à elle comme l'auteur de sa guérison et bien plus de son salut. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars tranquille et sois guérie de ton mal. Elle était effrayée, elle était tremblante, elle était intimidée de se voir découverte. Elle s'est dit, mince, on m'a découvert. Simplement touchant son vêtement, je suis obligée de me mettre à la lumière. Je suis obligée d'expliquer pourquoi je suis venue là, pourquoi j'ai fait ça. Elle avait peur d'être blâmée, elle avait peur d'être reprise par les hommes, n'oublions pas que c'était une femme. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu t'approches de lui? Pars, c'est pas ta place, que sais-je? Elle était aussi gênée à la pensée de confesser devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle l'a fait. En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme, c'est Luc 8, 47, vint tout en tremblant, se jeter aux pieds de Jésus. Elle s'est même jetée, mise à genoux devant lui. Elle confessa devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. La foi qui témoigne. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ce fut une parole pleine de puissance puis de compassion. Ce qui, selon le récit de Matthieu, lui dit, Jésus se retourna et quand il l'aperçut, lui dit, prends courage. Là, il l'encourage, prends courage, ma fille. Ta foi en moi t'a sauvée. À l'instant même, la femme se trouva guérie. D'après Marc, l'évangile de Marc, Jésus confirme sa guérison en la rendant permanente. Elle n'est pas seulement guérie pour le moment, mais elle est guérie, délivrée, définitivement. Mais il a fait pour elle beaucoup plus que la guérir. Sa déclaration « Ta foi t'a sauvé » s'étend bien plus qu'au corps, mais à l'âme. Non seulement son corps est guéri, mais son âme est guérie, son âme est sauvée. Il le dit. C'est ainsi qu'il se révèle à nous, à ceux qui veulent faire les quatre pas pour s'approcher de lui, pour être délivrés. Il se révèle comme le sauveur, comme notre sauveur. On voit par là l'importance de la traduction, des traductions des Bibles. Ta foi t'a sauvé, et non comme certaines de nos versions, ta foi t'a guéri, et c'est tout. Et j'étais étonné, j'ai recherché les versions qui marquent ta foi t'a guéri, mais pas sauvé. Il y a Osterwald, il y a Sommer, il y a Crampon, Chouraki, Français Courant, et même Darby, qui dit ta foi t'a guéri. Rappelons-nous les pas qu'elle a fait. Elle a franchi 7 obstacles. On a tous ces obstacles. On n'en aura pas peut-être 7, on n'en aura peut-être que 2, 3, ou 8, ou 9, que sais-je. On a entendu parler de Jésus de la bonne façon. Est-ce qu'on fait confiance à la parole de Dieu? Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on obéit? Elle est passée à l'action. Nous devons passer à l'action. Pas seulement entendre, mais il faut agir. Et le dernier point, elle a été guérie parce qu'elle a confessé. Donc, si on veut être guéri, délivré, on n'a ses pas à faire, chacun pour soi, et on est sûr, non seulement d'être guéri, mais d'être sauvé, parce que le Seigneur est notre guérisseur, notre libérateur, mais notre sauveur par-dessus tout. Que son nom soit béni. Amen.